France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Christiane Stutzmann de l'Opéra Comique et de tous les théâtres lyriques français qui accompagnaient les carrières des chanteurs dans les années 60. Interprète d'un vaste répertoire de l'opéra à l'opérette, Christiane Stutzmann a suivi les transformations de son métier avant de se tourner vers l'enseignement avec pour élève sa propre fille, Nathalie Stutzmann. Elle est à ce micro dans quelques instants. En fin d'émission, Serge Laïc nous dira tout de Jacques Loussier. Mais d'abord, allons nous promener dans les rues ensoleillé.
J'allais gaiement, fredonnant des chansons, quand brusquement et sans explication, une jolie fille me tombe dans les bras. Il n'y a qu'à moi qu'a eu des trucs comme ça.
D'un air gentil, j'ai dit bonjour Henri.
Ça m'a surpris car je m'appelle Eddy.
Vous avez pris pour un ami de papa.
Il n'y a qu'à moi qu'a eu des trucs comme ça.
Je me sentais stupide de m'être ainsi trompée. Car je suis timide,
je ne m'en serais pas douté.
Vous gênez, vous m'avez pris la main.
Et pour montrer que j'étais plein d'entrain, je vous ai chanté le Fanfare de la Tosca.
Il n'y a qu'à moi qu'arrive des trucs comme ça.
J'ai dit venez donc, chez moi il y a du Porto.
C'est pas la peine, répliquai-je aussitôt, car je ne bois que du Coca-Cola.
Il n'y a qu'à moi qu'a eu des trucs comme ça.
Mais vous étiez en veine de galanterie.
Je vous ai emmené dans une pâtisserie. Elle a mangé
12 tartes et 8 babas.
Il n'y a qu'à moi qu'a eu des trucs comme ça.
Tout le monde devine ce qu'ensuite il advint.
Et moi, je suis pas un saint.
On s'est juré qu'on s'aimerait toujours. Et c'est ainsi que depuis 15 jours, on est mariés.
Peut-être bientôt papa. Il n'y a qu'à moi qu'arrivent des trucs comme ça.
Il n'y a qu'à moi qu'arrivent des trucs comme ça.
À moi.
Bon, vous les avez reconnus, hein. Lui, Eddy Constantine. Elle, ah, c'est plus difficile, Paulette Rollin. Et pour reconnaître l'orchestre, je crois qu'il n'y avait que Serge Laïc qui est dans ce studio qui a deviné que c'était l'orchestre de Joe Boyer avec le quatuor vocal Les Quatre Notes dans un disque de 1953.
Thank you.
suite de danse hébraïque enregistrée par le grand chef de musique légère anglais Ambrose. Vous savez, il avait un orchestre merveilleux et il a gravé cette plage 78 tours en 1929. Il faut dire qu'Ambrose était lui-même d'origine juive polonaise, d'où sans doute ce coup de chapeau aux musiques traditionnelles.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous retrouvons mon invité, une invitée qui a mené une grande carrière lyrique dans les années 60 avant de se tourner vers l'enseignement et puis qui est aussi une vraie passionnée de l'histoire de son art, l'art des chanteurs d'opéra, l'art lyrique français dont elle va nous parler maintenant. J'ai le grand plaisir d'accueillir Christiane Stutzmann. Pêcheur d'étoiles, un titre que beaucoup d'amoureux de l'opérette n'ont pas oublié. Vous l'avez créé, Christiane Stutzmann, en 1972 avec Alain Vanzo. Et c'est cette œuvre qui vous a aussi donné envie d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer votre carrière.
Oui, pour la faire connaître au grand public, parce que autant elle a eu un succès extraordinaire pendant la création et ensuite dans tous les théâtres dans lesquels nous l'avons donné, que ce soit donc au Sébastopol, comme vous venez de dire.
Où ça a été créé, donc à Lille. Hein,
14 représentations, salle pleine à craquer, un triomphe. Alain Vanzo a eu un triomphe, vraiment.
Et vous-même, qui étiez sa partenaire.
Voilà, j'étais sa partenaire, Marina, le rôle principal qu'il a écrit pour moi.
Et ça a été repris à l'Opéra Comique.
Oui, ça a été repris à l'Opéra Comique. Et nous l'avons fait également à l'Opéra de Nice. Nous l'avons fait à l'Opéra Comique, nous en avons fait 30.
Alors, il faut préciser que ce Pêcheur d'étoiles, donc c'est une opérette d'Alain Vanzo, néanmoins co-composée pour certaines pages avec un autre compositeur d'opérette important, qui était Marc Berthomieux, notamment l'air qu'on vient d'entendre.
Et cette air-là, et de lui, absolument.
Voilà. Avec un orchestrateur prestigieux qui s'appelait Bernard Gérard, qui a beaucoup
formidable,
de variété, et qui apporte cette touche un peu de jazz qu'on
vient d'entendre. Oui, qu'il a voulu, absolument. Et puis cette espèce de retour au naturel, à la chanson, il voulait qu'on quitte le mode opéra pour cette ère-là, justement.
Voilà. Mais alors Alain Vanzo, vous avez sollicité donc pour créer le rôle principal, cet immense ténor qui donc avait aussi envie d'écrire de la musique, vous appréciait, j'imagine.
Bien sûr.
Vous aviez fait quoi ensemble?
Nous avons énormément chanté ensemble à l'opéra l'Opéra Comique et en province, on nous demandait beaucoup de Puccini ensemble, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Et c'est lui d'ailleurs qui m'a dit « Tu devrais chanter Manon Lescaut de Puccini
oui. ».
Et c'est grâce à lui, en quelque sorte, que j'ai chanté ce répertoire. C'est sur son indication. Et puis, également le répertoire français, bien évidemment. Mais surtout, si vous voulez, c'est un garçon qui voulait, dans l'opérette qu'il a écrite, retrouver quand même l'opérette viennoise. Parce que voilà, nous avons
c'était
énormément...
C'était romantique, hein, c'était
voilà.
pas du Offenbach.
Non, non
hein.
pas du tout. Non, non. C'est pas de l'opérette bouffe. Voilà. Donc, c'est une opérette très romantique, effectivement. Donc, nous avons énormément chanté de Pays du Sourire ensemble.
Oui.
Et il voulait retrouver une chanteuse d'opéra, donc les qualités des chanteuses d'opéra pour chanter son opérette.
Il paraît qu'Alain Vanzo, ce merveilleux chanteur, n'avait jamais le trac.
C'est vrai qu'il n'avait pas un trac paralysant. Mais quand même, ouais. vous savez, quand on chante dans les bras du ténor, on est toujours dans les bras d'un ténor, n'est-ce
ah
pas
bah
quand
oui.
on est soprane. Bon, on sent quand même l'émotion. Simplement, moi je dirais que son trac, c'était les paroles.
Ah oui.
Parce qu'il me disait toujours, avec son petit accent du midi, tu vois, je garde un emploi à l'Opéra Comique, c'est la souffleuse. Si je n'étais pas là, elle n'aurait plus le travail. voilà. Alors il avait le trac des paroles.
voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Christiane. Studzman. On va revenir d'ailleurs tout à l'heure à Pêcheur d'étoiles et à Alain Vanzo, mais on a mille autres choses à évoquer. Vous avez fait une grande carrière lyrique. Et puis, après cette carrière lyrique, vous êtes devenu professeur. Et j'ai envie de dire, vous êtes devenu aussi un peu une militante du chant et du chant français.
Absolument.
Ça vous occupe beaucoup depuis des
oui,
années.
Absolument.
Hein.
Ça m'intéresse beaucoup. Parce que je me suis rendu compte qu'on ouais. laissait tomber non seulement notre patrimoine lyrique français,
ouais.
mais les jeunes chanteurs.
Ouais.
Et qu'il y avait quand même là quelque chose à dire, quelque chose à signaler. Alors je me suis mise à défendre un répertoire que j'ai pourtant chanté en minorité.
Vous rejoignez d'ailleurs dans ce combat des invités longtemps fidèles de cette émission, comme Gabriel Baquier, Michel Sénéchal, Robert
absolument.
Massard, qui voulaient aussi se mobiliser hein, pour la défense du répertoire français.
Absolument, absolument.
Voilà.
Il n'y a aucune raison de laisser tomber ce magnifique répertoire.
Que vous avez beaucoup chanté.
Oui.
Et aussi, on le redira plus en détail, mais aussi le répertoire italien
ah
en
oui,
français.
Oui, surtout. Bah oui, parce que, oui, mais je l'ai tout de même, j'ai quand même été parmi les premières à chanter le répertoire italien en italien.
En italien.
Notamment pour Manon Lescaut de Puccini à la radio, à l'ORTF,
ouais,
comme on disait, n'est-ce pas? Et puis, avec le merveilleux, extraordinaire chanteur mondialement connu, Mario Del Monaco, où j'ai chanté Desdemone avec lui.
Mais on donnait encore en province ou à l'Opéra Comique souvent le même répertoire en français.
On donnait tout le répertoire en français, par exception en langue originale. Et puis dans les années 80, eh bien c'est le contraire qui s'est produit.
Voilà,
l'exception c'était de chanter encore en français certains ouvrages, par exemple le répertoire russe.
Oui, voilà. Bien sûr, voilà. En tout cas, voilà, on va évoquer quelques-uns de ces souvenirs avec vous, Christiane Studzman, puisque vous nous avez fait le plaisir de venir de Nancy, votre oui. ville à laquelle vous êtes très attachée hein, depuis votre naissance. Vous
absolument.
Êtes une Nancéienne militante aussi.
Mais oui, absolument, absolument. Mais vous savez, je suis Lorraine et mon nom l'indique parfaitement, Lorraine de la Moselle, donc Lorraine du Nord. Mais j'ai fait mes études à Nancy et j'ai enseigné à Nancy, alors donc, voilà. Évidemment, je suis parfaitement Lorraine.
Aujourd'hui, donc, vous êtes avec nous à Paris, mais on va remonter peut-être à votre enfance, Lorraine, avec
oui.
cette petite chanson interprétée par Mado Robin.
Avec une robe tout en fleurie.
une compositrice trop oubliée, Augusta Holmès, qui a écrit cette berceuse longtemps célèbre, chantée ici par Madeleine Robin un peu après la guerre avec Maître Jean Bastide de l'Opéra pour les chœurs, c'est un 78 tours. Et pour vous, Christiane Stutzmann, c'est une chanson chargée de souvenirs.
Ah oui, souvenirs de ma mère pendant la guerre. Ma mère était présidente des femmes de prisonniers et organisait des galas pour pouvoir envoyer des colis aux prisonniers en Allemagne.
Ouais.
Et j'étais toute petite, mais je chantais. J'ai toujours été bercée par la voix de ma mère, qui avait une voix magnifique.
Elle était une bonne chanteuse.
Elle chantait tout le répertoire d'opéra, d'opéra comique.
Mais pas juste par plaisir.
Par plaisir. Ouais. Avec sa mère, elles allaient au théâtre de Metz toutes les semaines, voir tous les spectacles qu'on donnait entre les deux guerres, qui étaient très nombreux. Et donc, j'ai chanté pour la première fois sur scène, grâce à ma mère. 3 ans, je suis venue ce soir pour un Noël, je ne sais plus, 43, 44, quelque chose comme ça.
Et quelques années plus tard, donc, Madeleine Robin l'enregistre. Vous admirez Madeleine Robin?
C'est une merveilleuse chanteuse, c'est une femme extraordinaire. Vous savez, c'était quand même un phénomène. Les Anglais, les Américains l'appelaient la stratosphérique coloratour. Voilà, la French stratosphérique coloratour.
Vous l'avez croisée, elle est morte très jeune. Mais
elle est morte en 60, oui, elle avait 42 ans.
Au début de votre propre
carrière. Je n'avais pas encore débuté tout de même. Et j'avais rencontré avec mon professeur dans sa loge, elle nous avait raconté qu'elle rentrait de Moscou, où elle était allée faire plusieurs concerts, et la deuxième fois qu'elle est venue au Bolchoï, les Russes l'ont fait marcher sur des pétales de roses. Tellement ils pensaient que cette femme ne pouvait absolument pas marcher sur le plancher des vaches, comme on dit en France, n'est-ce pas?
Mais il y a un côté un peu acrobatique dans l'art de Madeleine Robin.
Contre-contre-ré. Voilà. La seule femme au monde à émettre un contre-contre-ré.
Oui, mais je veux dire, parfois, les purs musiciens regardent ça avec un peu de dédain.
Bien sûr, c'est de l'acrobatie. Non, mais c'était une acrobatie, certes, et une hauteur vraiment exceptionnelle. Mais une femme qui avait une âme quand elle chantait, se dégageait quelque chose. Donc, c'était au service de l'art.
Exactement. Et alors, vous-même, donc, Christiane Stutzmann, avec cette mère musicienne, ou du moins amoureuse de la musique, vous avez très tôt commencé l'apprentissage, et pas seulement l'apprentissage du chant.
Non. Voilà. J'ai commencé le piano, j'ai toujours voulu un piano, ma mère m'a acheté un piano, j'ai fait du piano et de l'orgue, et puis un jour j'ai dit, tiens, je ferais bien du chant. Et d'ailleurs, mon père m'a dit, tu ne chanteras jamais aussi bien que ta mère.
C'est agréable, c'est encourageant.
Non, mais c'est un grand amoureux. Voilà.
Et donc, finalement, vous avez commencé par faire vos études au Conservatoire de Nancy.
Absolument.
Et puis, ça a si bien marché que vous êtes parti au Conservatoire de Paris.
De Paris.
Voilà, où vous avez eu un maître, qui est un chanteur que j'adore, moi,
Jean
qui était Jean Giraudeau. Dites-nous un mot de vos relations avec Jean Giraudeau.
C'était un homme extraordinaire. Très musicien, un homme très drôle, et puis qui nous apprenait tout ce que les partitions n'apprennent pas. C'est ce qui est intéressant, parce qu'on apprend à lire la musique, comme chez tout le monde, n'est-ce pas? La technique, ce n'est pas un technicien extraordinaire. Mais c'était un homme qui connaissait les compositeurs. Quand vous chantiez Verdi, et il vous expliquait tout sur Verdi, n'est-ce pas? Donc on était habité, je me rappelle, de la légende du Saule, que j'ai chanté pour la première fois dans sa classe, où il m'a raconté ce que vivait à ce moment-là Desdémone, et pourquoi elle se souvenait, avant de mourir, de ce qu'elle avait vécu avec sa servante qui chantait toujours « Salce, salce », n'est-ce pas ? Saul, qui récitait ça comme une lamentation puisque son fiancé l'avait abandonné. Et je n'ai jamais chanté Desdémone, jamais, sans penser à ce qu'il m'avait dit.
À Jean Giraudeau,
voilà. C'est ça l'empreinte.
C'était donc pas seulement, parce qu'on le connaît beaucoup aussi par les rôles bouffes, etc.
C'était un homme très cultivé.
Un homme cultivé,
très
profond.
Musicien. Son père était violoncelle, solo à l'orchestre de Toulon, et sa mère organiste. Alors vous savez, il a vécu dans la musique.
Et puis, vous avez croisé aussi, il faut dire, à vos débuts, les grandes figures de cette génération du chant. Je pense par exemple à Jeannine Michaud, qui était la grande soprano de l'époque.
Bien sûr, grande soprano. Et puis avec un style, une élégance très française. Alors vraiment, c'est la soprano française par excellence. Mais l'époque où je suis arrivée et la jonction entre l'ancienne génération, dont vous venez de parler, Jeannine Michaud, et la nouvelle. Donc j'ai encore connu cette époque-là, et je dois dire que c'était quand même assez folklorique, parce que ce qui a suivi était nettement différent.
Voilà, on en reparlera de la réforme de l'opéra tout à l'heure, mais alors donc quand on sort du Conservatoire de Paris avec un premier prix de chant en 1961, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Eh bien on fait des auditions.
Ah voilà, c'est ça.
Alors, avec mon mari, qui est chanteur, bariton,
qu'on va évoquer dans
un instant, Christian Dupuis, Nous avons fait le tour des théâtres français, il y en avait une cinquantaine. Alors nous nous sommes promenés, nous avons connu toute la France, oui. Nous avons auditionné. Et après cette tournée d'audition, j'ai récolté pratiquement une quarantaine de représentations.
Ah oui.
Premier rôle.
Mais il fallait aller auditionner partout.
Il fallait aller auditionner, voilà. Mais il y avait tout de même un autre élément pour les jeunes chanteurs, c'était l'audition des directeurs à Paris.
Ah oui, voilà. Alors, mais alors, rapidement, donc, vous trouvez tous ces rôles en province.
Oui.
Et avec une prédilection qui s'est tout de suite dessinée, quand même, notamment pour l'opéra italien.
Oui, hein, oui,
et notamment pour Puccini.
Ça, c'est Jean Giraudoux qui m'avait tout de même orienté vers l'opéra italien.
Voilà. Et vers Puccini. Oui. On va vous retrouver justement tout de suite dans un enregistrement important pour vous, je crois, et très beau, avec Georges Sébastien.
Absolument.
En 1969. C'est la Manon Lescaut de Puccini. On écoute tout de suite l'air, un mot de commentaire simplement avant de l'entendre.
C'est Georges Sébastien, c'était vraiment un chef extraordinaire. Oui. Alors, il ne battait pas la mesure, il vivait sa partition avec le corps. Il fallait comprendre par des signes mystérieux ce qu'il voulait faire, si vous voulez. Donc, c'est un chef qui incarnait la musique, mais qui n'était pas ce que j'appelle un chef de battu.
Voilà, bah, ce sont nos archives de la radio,
Christian
Stutzmann, le RTF.
C'était en direct.
En 1969, il y avait aussi une audition pour chanter à la radio, d'ailleurs, à l'époque.
Oui, mais pour chanter dans les théâtres et à la radio, l'audition des directeurs. Tous les jeunes chanteurs s'y précipitaient.
Alors ça, c'était à l'opéra?
Ah non, ça c'était au théâtre, si ma mémoire est bonne, d'ici les Molineaux.
Ah oui,
voilà.
Alors tous les directeurs de France venaient?
Oui, à peu près. Tous les grands directeurs de France venaient et puis choisissaient dans cette pépinière extraordinaire qui étaient les élèves du Conservatoire de Paris, 12 classes de chant tout de même.
12 classes de chant, voilà.
Oui.
Et donc là, vous commenciez donc à vous faire plus que remarquer avec ce répertoire italien, avec Puccini, ici en italien, mais aussi beaucoup en français.
En français, bien sûr.
Bien sûr. Et dans cette époque, alors il faut rappeler deux, trois petits détails importants qu'on a complètement oubliés aujourd'hui. Par exemple, quand vous étiez une jeune chanteuse et que vous alliez chanter les rôles d'opéra un peu partout en France, il fallait que vous apportiez vos costumes.
Mais absolument, absolument.
Aujourd'hui,
les premiers
c'est fait
rôles
au théâtre par les metteurs en scène et les costumiers.
Tout est fourni.
Mais là, on venait avec son costume.
Ah oui, les premiers rôles devaient fournir leur costume. Et je me rappelle, moi qui ai chanté beaucoup le rôle de Tosca, avec la canne, parce qu'il fallait la canne, n'est-ce pas?
Ah oui.
Elle n'était même pas dans le magasin d'accessoires, comme elle y serait naturellement forcément maintenant. Donc on venait avec tout, les perruques, les costumes, les chapeaux, les cannes.
C'est très encombrant.
Ah, c'est terrible, c'est terrible. J'avais une valise avec uniquement les costumes de théâtre, ma valise personnelle bien évidemment. J'avais des cartons perruques, j'allais chercher rue du Faubourg Saint-Martin chez Bertrand, avec les petites ficelles accrochées à la valise. pas de porteur et pas de valise à roulettes, cher ami.
C'est vrai, voilà. Il n'y avait pas de valise à roulettes.
Alors, je vous assure qu'il fallait avoir quand même...
Mais ça veut dire aussi que les costumiers et les metteurs en scène ne faisaient pas n'importe quoi. Il y avait, pour la Tosca, on devait être habillé d'une certaine façon et pas autrement.
Ah non, voilà. Il n'y avait pas de réactualisation.
Et d'ailleurs, vous avez raconté, c'est assez amusant... au fond, l'autonomie des chanteurs, et notamment des chanteurs vedettes à l'époque, je pense à Tony Poncet par exemple, c'était pas le metteur en scène ni le chef d'orchestre qui décidait comment il devait faire.
C'était lui. Voilà. C'était lui. Je me rappelle, j'ai débuté avec lui dans Nedda de Payas, c'était au théâtre Gralin de Nantes. Et alors, moi j'étais toute jeune, toute débutante, j'écoutais, alors je chantais avec le grand Tony Poncet, c'était une très grande vedette. Et alors, le jeune chef d'orchestre essayait de lui dire, mais monsieur, je n'ai pas compris où vous respiriez, etc. Écoute, mon petit, tu t'occupes pas de moi, je m'occupe pas de toi. Je fais ce que je veux. Ici, tout le monde vient pour Tony Poncet, il ne vient pas pour toi.
Et tu as qu'à me suivre. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, c'est un autre monde.
Oui, bien, c'est ça. On me suit.
Alors, parmi d'ailleurs aussi les rencontres marquantes ou les expériences de cette jeune carrière de chanteuse, il y a eu la télévision très vite aussi avec Gabrielle Bacquier dans un feuilleton,
Mortimer, voilà. Le miroir à trois faces. Ouais. Et il y avait 45 minutes pour l'opéra, c'est-à-dire pratiquement tout le deuxième acte de la Tosca. Je dois vous dire que l'émission est repassée à l'époque. Ouais. Il n'y avait qu'Henri Spade qui montait les opéras et encore de temps en temps.
Et surtout des opérettes
et des
dans
opérettes,
Air de France.
Voilà. Et puis Aimé Mortimer. Eh bien, je dois vous dire qu'en 6 mois, j'ai eu tous les engagements pour toute la France après le passage à la télévision pour la Tosca.
Voilà. Un autre lieu qui est devenu rapidement important dans votre vie aussi, dans votre carrière, ça a été Nice.
Oui, bien sûr. Voilà. L'opéra de Nice. Mais il faut dire que le directeur Ferdinand Aimé était un cas. Alors vraiment, on pourrait faire un livre sur ce
Ferdinand
directeur.
Aimé,
oui, il avait 7 théâtres, les 7 théâtres de la Méditerranée. Et c'était un homme qui était parti de rien. Il était groom au Negresco. Mais il a épousé une femme très riche. Il était très beau.
Ah oui.
Ouais, il l'a séduite. Et alors, une fois, naturellement, l'époux de cette dame, il a eu tous les théâtres parce qu'elle voulait être directrice de théâtre. Et il avait même les arènes de Nîmes.
Ah aussi.
Ah oui, il s'occupait des taureaux.
Donc c'était une des grosses maisons d'opéra en France à l'époque, avec toutes les vedettes qui défilaient là-bas.
Extraordinaire, extraordinaire. Quand on chantait déjà dans ces 7 théâtres, on avait l'assurance de chanter dans toute la France après.
Voilà. Alors on a parlé du chant en français, du chant en italien. On va maintenant quand même, parce que vous l'avez déjà évoqué, parler un petit peu de votre mari, mais cette fois-ci avec du chant en anglais.
Absolument.
Parce que c'est lui qu'on écoute ici dans My Fair Lady.
Where else on earth that I would rather be? Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you live. And the torturing feeling, just to know somehow you are here. Any second you may certainly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you live.
Christian Dupuis dans My Fair Lady, et Christian Dupuis, donc c'est Monsieur Stutzman. Hein.
Voilà, hélas. Alors cet orchestre est l'orchestre du Big Band du Conservatoire de Nancy qui avait été créé par un trompettiste extraordinaire qui est Dino Tomba.
Ah voilà. Et donc, Christiane Stutzmann, oui, bah, c'est bien de nous faire entendre votre mari, mais de voir que c'est vraiment une famille très, très musicale.
Mais oui.
Et parlez-nous un petit peu de lui, de comment est-ce qu'il est arrivé à chanter comme ça la comédie musicale anglais.
Oui, mais c'est parce qu'il était traducteur et interprète d'un colonel américain au camp américain de Toul-Rosière à côté de Nancy, juste après la guerre, et qu'il était amoureux de la langue anglaise. De toute façon, son professeur d'anglais était un écossais, pourtant qu'il n'a peut-être pas l'accent parfait, n'est-ce pas? Mais enfin, en tout cas, il était vraiment très intéressé par tout le répertoire. Alors, au PX du camp américain, il avait toutes les chansons, évidemment, à sa disposition. Il faisait un petit orchestre en fin de semaine.
Ouais.
Et avec sa petite formation, il avait un répertoire de 250 chansons. Enfin, les classiques américains, si vous voulez.
Voilà.
Alors, donc, il a toujours chanté ce répertoire. Il adorait ce répertoire. Ça lui convenait très bien. Et quand nous avons fait les deux traversées du France, la transatlantique, il chantait tout ce répertoire pour le public américain à bord.
Ah, voilà. C'était bien ces traversées
de l'Atlantique. C'était fantastique, inoubliable.
Et vous-même, vous chantiez sur
Moi, je passais pour les premières classes en opéra.
Ah voilà, l'opéra, c'était pour les premières.
C'est ridicule. Et les classes touristes avaient droit au répertoire de crooner américain de Christian Dupuis.
Il faut aussi préciser, évidemment, on y reviendra un peu tout à l'heure, Christiane Stutzmann, qu'avec Christian Dupuis, vous avez un enfant, une seule d'ailleurs, c'est Nathalie Stutzmann, qu'on connaît bien évidemment en France Musique.
Absolument.
Votre fille unique.
Alors oui.
Vous avez chanté avec elle avant même sa naissance.
Oui, parce qu'elle était dans mon ventre. Pendant que je l'attendais, j'ai chanté une cinquantaine de spectacles.
Oui.
Et j'ai toujours dit, à l'époque on se moquait de moi, j'ai toujours dit qu'elle écoutait parce que quand elle commençait à remuer énormément, c'est très gênant pour le souffle, etc., évidemment, eh bien je remarquais que lorsque j'arrivais en scène et que je commençais à chanter, le bébé ne bougeait plus.
Ah, extraordinaire.
Alors j'ai toujours dit, elle m'entend. Alors, à l'époque, on m'a traité de folle, mais maintenant, nous savons scientifiquement que c'est vrai.
Voilà. Alors Nathalie Stutzmann, évidemment, on reviendra tout à l'heure à sa carrière et à ce qu'elle vous doit aussi pour le fait d'être devenue cette grande musicienne. Mais quand j'entends votre mari chanter la comédie musicale, je vois qu'il y a aussi, dans votre goût, un grand éclectisme. Vous aimez la chanson, vous alliez écouter...
Mais bien sûr, mais de toute façon, il faut rester dans l'instinct de ce qui fait plaisir, de ce que l'on aime. Il n'y a pas de barrière. Le jazz, le musical, la belle chanson.
La belle chanson, pour vous, ce serait Traîné, Piaf.
Bien sûr. Ou Aznavour.
Aznavour.
Bien sûr. Vous alliez beau texte, cette belle chanson.
Vous alliez parfois, quand vous étiez parisienne.
Oui, j'y allais quelquefois.
Les endroits où on pouvait entendre les chanteurs.
Oui, et puis j'ai surtout beaucoup aimé, à ses débuts, Gilbert Bécaud, puisque j'ai créé aussi son opéra d'Arane, en province, chez Louis Herlot, à l'opéra de Lyon. Et donc, j'ai très bien connu Gilbert Bécaud.
Qui était un pianiste de grande classe.
Grand pianiste classique.
Voilà. Mais il faut le dire, parce que c'est
bien sûr, les gens l'oublient.
Et l'opéra d'Arane, alors on peut rappeler aussi que c'était une œuvre importante à la frontière de l'opéra et de l'opérette. Enfin.
Oui, peut-être pas de l'opérette, je dirais plutôt...
La comédie musicale.
Plutôt la comédie musicale, oui. Voilà. Tout en n'ayant pas de texte à l'intérieur, parlé. Il n'y
tout
avait vraiment que du chant. Mais on dit que c'est la classe au Conservatoire de Paris de Tony Aubin qui aurait fait l'orchestration principale, si vous voulez. Bien que nous savons que Gilbert Bécaud était un excellent musicien.
Voilà. Alors, une autre artiste que je crois vous admirez, alors vous me faites plaisir parce que pour moi, toutes les occasions sont bonnes pour l'écouter, c'est Sissi Delair.
Ah, merveilleuse. Voilà. Merveilleuse. Quelle voix, quel art du chant, quelle jolie voix. Et puis elle savait tout faire. Elle jouait la comédie, elle savait danser. Elle avait une diction lyrique parfaite aussi.
Voilà, Sissi Delair qu'on salue si jamais elle nous entend. Là, c'est dans Quai des Orfèvres. Mais vous n'avez pas pris le tralala, vous avez pris l'autre chanson qui est moins connue.
Oui, parce que je me suis dit, le tralala, tout le monde l'attend. On a dû le passer des milliers de fois. Alors ça me rappelle aussi tout de même des souvenirs d'enfance.
Le film lui-même.
Le film lui-même.
Danse avec moi.
Danse avec moi. Brisons-nous tous les deux de l'instant merveilleux. Fermons les yeux. Danse avec moi. profitons de l'accord qui fait vibrer nos corps dans
Suzy Delair en 1947 dans le film Quai des Orfèvres,
bien sûr.
Évidemment,
quel
joyau
charme.
Du cinéma français. Hein, vous oh, avez senti que vous aimiez vraiment
inégalable.
Cette voix.
Absolument.
Christiane Stutzmann, vous êtes là avec nous ce matin aussi pour faire revivre, j'ai envie de dire, un monde un peu disparu de l'opéra, mais même si ça n'est pas si loin que ça, le monde des années 60, où
bien
vous
sûr.
Avez chanté à peu près tous les rôles dans à peu près tous les théâtres. Alors, on a évoqué, évidemment, les débuts de la carrière en province, comme on disait à l'époque. Il ne faut pas trop le dire aujourd'hui parce que le mot maintenant fait mal aux gens.
Bien sûr, bien sûr. On ne peut rien dire.
On ne peut plus rien dire. En région, on va dire.
Voilà. Oui.
Et puis ensuite, donc, la carrière parisienne, c'est d'abord en 1967, vos débuts à l'Opéra Comique.
À l'Opéra Comique, voilà. Oui, absolument. Dans la Bohème, dans Madame Butterfly.
Alors là, c'était en français
oui.
ou en italien?
C'était en français.
Voilà, c'était en français, toujours à l'Opéra
Comique. Oui, oui.
Et alors, c'est amusant parce que donc, vous faites vos débuts à Favart, oui. dans des grands rôles. Et alors,
oui.
ça fait vraiment le monde d'autrefois. C'est qu'il oui. y avait encore à l'époque beaucoup d'hommes politiques qui allaient à l'opéra
Absolument.
Et qui s'intéressaient ou qui
Absolument.
Admiraient les artistes, qui leur faisaient envoyer des fleurs,
Mais
etc.
Oui.
Racontez-nous.
Un jour, je me préparais pour chanter Madame Butterfly et puis je vois mon habilleuse qui amène des corbeilles. Des roses, je dis bon
Corbeille
Dieu,
de rose.
Je dis, mais enfin c'est extraordinaire, mais qui est-ce qui m'envoie ça? Elle me dit, ah madame, c'est le président du Sénat, c'est
voilà.
monsieur Alain Poher.
Voilà, vous aviez vos corbeilles de roses, c'est
Et
joli.
Puis alors, quelques jours après, pour la comtesse des noces de Figaro, elle me dit, oh décidément madame, alors, elle me dit, vous savez, de qui sont ces belles roses? Non. Eh bien, c'est de monsieur Marcel Achard.
Ah voilà. le grand auteur
voilà.
aussi, voilà.
Voilà, et... avec beaucoup d'élégance et en toute discrétion, il m'envoya, Marcel Achard m'avait mis je ne veux entendre que vous.
Ah, c'est joli. Mais écoutez, voilà, c'était bien d'être chanteuse à l'époque, on était choyé.
Ah oui, il y avait encore une belle tradition.
Une belle tradition. Et puis c'était sans doute agréable aussi de chanter dans cette merveilleuse salle Favart.
Ah oui.
petite, mais ah oui, mais avec on une se sent belle si acoustique. Proche du public,
oui,
justement.
Oui, voilà, on a une relation avec le public qui est très agréable. Parce que dès que j'ai chanté à l'Opéra de Paris, puisque...
C'est-à-dire l'année suivante. Hein.
L'année suivante, voilà. En 68, célèbre année, bon, j'ai chanté le rôle de Floria Tosca. Donc, voilà. Alors, je suis sentie effectivement toute seule sur le plateau. Ouais. Vous me direz, c'est bien pour le trac, n'est-ce pas? Mais quand même, je ne sentais pas cette proximité, la salle, cette communion avec le public que l'on sent tellement bien à Favart. Voilà, donc ça c'est le côté un peu impersonnel de ces grands vaisseaux.
Comment ça fonctionnait alors en 68, la troupe de l'Opéra de Paris et les engagements pour les solistes comme
alors, il y avait deux sortes d'engagements. Il y avait les chanteurs de la troupe, il y avait 96 chanteurs. Oui, donc, dans un premier temps, j'ai fait partie des 16 chanteurs qui étaient premier rôle. Et puis ensuite, mon impresario m'a dit, écoutez, quand même, non, vous êtes trop prise par l'opéra, il faut que je puisse vous faire chanter quand même ailleurs. Donc, demandez à être au cachet. Et alors ensuite, j'ai été artiste au cachet. Mmh. Mais enfin, c'est pareil, je chantais les mêmes rôles. C'était la même chose, si vous voulez, pour moi, tout au moins.
Voilà. Et le public était peut-être plus fervent encore à Favart qu'à Garnier.
Ah oui, il y avait les habitués. Oui. Moi, je me rappelle qu'après mon air, on chantait en français « Sur la mer calmée » et non pas « Un bel di vedremo » comme je l'ai chanté en italien, n'est-ce pas? Eh bien, on avait des admirateurs qui nous lançaient des petits bouquets de violettes sur la scène.
Sur la scène.
Oui, c'était très mignon, vous savez. On n'a plus jamais ces hommages tellement agréables.
Voilà. Alors, on va vous retrouver, Christiane Soutzmann, dans un air d'un opéra qu'on donnait encore à l'époque, on donne plus beaucoup aujourd'hui, c'est La fiancée vendue de Smetana. Et qui est une œuvre plutôt légère, mais avec des moments, on va le voir, plus dramatique.
C'est comme un opéra comique.
Voilà.
Mais ce serait le grand opéra comique.
Le grand opéra comique.
Voilà. Mais c'est très distrayant aussi. Il y a beaucoup de ballets. J'y avais débuté aux arènes de Cimiez, à Nice. C'est un très beau souvenir avec Oscar Danone au pupitre. C'est magnifique. Et les ballets tchèques qui étaient venus, c'était splendide. Très belle production.
Et là, donc, on vous retrouve toujours dans un enregistrement de la radio en 1970 dans l'air de Marienka.
Sa parola,
un concert public de la radio, de l'ERTF, sous la direction de Jean Meilland, avec vous-même, donc, Christiane Stutzmann, dans cette fiancée vendue de Smetana. Vous me disiez d'ailleurs, hors antenne, que, à l'époque, évidemment, il fallait monter les rôles très vite, il y avait peu de répétitions.
On répétait quelques fois 3 jours.
C'est ça.
Mardi, mercredi, jeudi, le vendredi, on chantait.
Alors c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs les gens après, ou du moins une partie des amateurs d'opéra ont dit que la réforme Liberman, ça avait apporté quelque chose d'important parce qu'on avait beaucoup plus de temps pour les productions.
Vous savez, c'est toujours beaucoup plus facile de faire de grandes choses avec des, comment dirais-je, des budgets aussi extraordinaires que ceux que l'on a accordés à Liberman, déjà premièrement, et deuxièmement, de faire une programmation internationale aussi avec les plus grandes vedettes également, et de pouvoir se payer le luxe de répéter également. Voilà.
Parce que ça a été donc cette fameuse réforme de l'Opéra de Paris, on en a souvent parlé, c'est-à-dire la fin de la troupe,
c'est ça.
L'arrivée des grandes distributions, des metteurs en scène très importants, etc., avec des coûts de production différents aussi, la diminution du répertoire. On en a souvent souligné, j'ai envie de dire, dans la presse musicale, y compris à France Musique et ailleurs, les bienfaits. Vous, vous êtes assez critique quand même sur cette grande réforme de l'opéra.
J'en ai subi naturellement les conséquences.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a eu disparition d'une génération de chanteurs dont j'ai fait partie.
Voilà,
c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers la pédagogie.
Voilà, c'est ça. Parce que donc tous les chanteurs français, enfin à part quelques exceptions, sont passés un petit peu à la trappe de l'Opéra de Paris. À ce
absolument, moment-là. Absolument.
Voilà. Et c'était d'ailleurs aussi un combat qu'ont mené beaucoup d'autres dans cette émission que de réhabiliter l'ancienne troupe qu'on a beaucoup dénigrée.
Bien sûr.
Ça a été aussi une des conséquences de cette réforme Liberman, malgré tout, une diminution nette du répertoire français.
Bien sûr, diminution nette du répertoire, diminution aussi de l'emploi pour les jeunes chanteurs lyriques français, et diminution aussi du nombre de professeurs connaissant ce répertoire qui ne peuvent plus l'enseigner, puisque de toute façon, on les a fait disparaître.
Voilà.
Alors, quand vous regardez les programmations actuellement, eh bien, il n'y a pratiquement plus de chanteurs français.
Et il faut dire, en réalité, d'ailleurs, que Liberman lui-même pensait que l'opéra comique continuerait à défendre le répertoire français de façon exclusive.
Oui, il avait demandé que le répertoire français soit joué à l'opéra comique avec une troupe de chanteurs français. Mais il avait demandé tellement d'argent pour l'opéra qu'on lui a refusé le deuxième projet, bien évidemment.
Et donc, ça a été très, très mauvais pour ce répertoire. D'autant plus que vous expliquez parfois que le français, d'une certaine façon, est une langue plus difficile à chanter.
Oui.
Pour des raisons presque liées à la structure de la langue.
Oui. 16 voyelles.
Oui.
En comprenant, naturellement, les nasales et les muettes.
Et en italien, il y a moins de voyelles.
5.
Il y en a 5 seulement.
A, E, I, O, U. Voilà.
Ah oui.
Et puis, non, mais le français, vous avez.
C'est une articulation très.
Oui.
Voilà.
Fischer-Dieskau l'a dit, mesdames, messieurs les chanteurs, si vous voulez apprendre le legato, c'est-à-dire le lier, chantez en français.
Oui.
C'est l'équilibre idéal pour la liaison.
Voilà, c'est la phrase dans son entier.
Et puis une phrase difficile à chanter. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un accent tonique très prononcé. Nous avons une langue avec un ambitus très étroit, n'est-ce pas ? Et quand vous chantez en russe, quand vous chantez en italien, vous avez un accent tonique très profond qui fait que finalement, ça aide énormément dans la vocalité.
Il faut dire quand même, Christiane Stutzmann, qu'en ce début des années 70, même si ça s'est achevé à l'Opéra de Paris, vous avez continué à chanter d'abord dans les autres théâtres, en France et à l'étranger.
Bien sûr.
Et puis vous avez commencé aussi, pour notre plaisir, à enregistrer un certain nombre de disques d'opérettes. Mmh. Vous savez que l'opérette est reine dans cette émission.
Bien sûr.
Alors on va l'évoquer tout de suite et on commence par écouter peut-être un extrait de Valse de Vienne de Johann Strauss, père et fils.
Les mots sont un piège où les hommes se prennent. Quand ils s'y sont pris, ils croient qu'ils nous comprennent. Au premier mot d'amour, ils se croient adorés. Les phrases que la vie blesse.
l'amour vous ensorcelle, version française, avec accent russe, hein, c'est le rôle ça,
oui,
Christiane
Stutzman. Le rôle de la comtesse qui doit avoir un accent séduisant, naturellement.
Voilà, extrait de l'opérette Valse de Vienne, dirigé par Jean Doussard, et c'est donc un de ces nombreux disques qu'on peut trouver encore aujourd'hui. Vous avez enregistré à l'époque. Comment vous vous êtes engagé dans cette aventure autour des opérettes françaises et viennoises?
C'est Bernard Sinclair.
Le chanteur Bernard Sinclair.
Oui, le chanteur Bernard Sinclair, avec qui j'avais chanté, et qui a eu l'idée, qui m'a dit, j'ai contacté votre agent, moi j'aimerais que ce soit des voix comme vous. Alors, toujours même réflexion, on va faire comme à Vienne, les chanteurs d'opéra chantent l'opérette.
Voilà, c'est ça, oui.
Et alors, c'est lui qui a eu cette idée de me proposer pour le rôle, ainsi qu'ensuite La fine Madame Angot et Les cloches de Corneville. Voilà, et nous avons fait ces trois disques chez Pathé Marconi.
C'était pas facile, hein, parce qu'il y avait des problèmes de résonance
dans
la salle.
Ah bah, la salle Wagram, c'est quelque chose. Alors à la fois, ça résonne beaucoup, mais il y a un écho, donc c'est très particulier. Il faut surtout se fier à la battue du chef et non pas à l'oreille avec l'orchestre.
Voilà. Dans ces enregistrements, il y avait aussi une autre grande artiste qui est Maddy Mesplé.
Maddy Mesplé, absolument.
Rendre un petit hommage.
Formidable, Maddy Mesplé, inégalable Maddy Mesplé, qui savait, elle aussi, tellement bien chanter l'opérette, l'opéra comique et l'opéra. Bien sûr.
Et puis vous avez aussi d'ailleurs fait un certain nombre d'enregistrements radio lyriques, alors avec Adolphe Sibert, Vanzo, etc. Plus dans le répertoire viennois. Hein. Ça en fait beaucoup.
Oui, bien sûr, bien sûr. La Veuve Joyeuse.
Mais vous n'aimez pas qu'on retienne que ça quand même de votre carrière.
Non, parce que c'est 15% du répertoire des 50 rôles que j'ai chantés. Voilà.
Bien sûr, oui.
Alors, mais ça compte parce que ça m'a premièrement fait très plaisir. Deuxièmement, ça m'a beaucoup appris. Parce que l'opérette, c'est une école, et ça fait beaucoup de bien, ça ferait beaucoup de bien aux chanteurs de passer par l'opérette, mais malheureusement, comme on ne la donne plus,
voilà. Et puis, alors, dans ces nombreux rôles que vous évoquez, il y a aussi tous les rôles d'opéra contemporains hein, qui ont compté dans votre vie. Par exemple, La Chartreuse de Parme d'Henri Sauguet, que vous avez chanté, Christian Stutzman.
C'est grand bonheur pour les Jeux Olympiques de 68 à Grenoble, dans le pays de Stendhal. Voilà.
Et puis Martinou, le grand compositeur franco-tchèque, on peut dire presque, parce que ce sont des opéras français en l'occurrence, La Passion grecque.
Hein, et puis Les Trois Souhaits qui ont été repris ensuite par Louis Herlot quelques années après et qui ont été redonnés encore récemment. C'est un ouvrage absolument superbe.
Superbe, donc
très bien écrit.
Pas assez grand compositeur.
Non,
bien
c'est
sûr.
Dommage, parce que c'est du très beau contemporain.
Encore plus oublié, donc on l'évoquait tout à l'heure, Marc Berthomieux dans Königsmarck. Encore une œuvre que vous avez...
C'était à la Gaîté Lyrique,
Au théâtre de la Gaîté Lyrique. Et puis donc Alain Vanzo, puisqu'il a été lui-même le compositeur de Pêcheurs d'étoiles.
Mais naturellement, le magnifique Alain Vanzo, qui avait cette qualité rare d'avoir autant de charme que de puissance.
Oui.
Il était gentil, vous savez, ça paraît bête de dire ça. Il était simple, il était généreux, et sur scène, ça se sentait. Quelque chose qui se dégageait de cet homme et qui participait beaucoup, je pense, à son succès. Oui. Les dames étaient folles, les femmes étaient folles de la voix d'Alain Vanzo.
Oui, il y avait quelque chose de prodigieux quand il chante Les Pêcheurs de Perles, avec René Doria ou de choses comme ça.
C'est superbe.
Irrésistible.
Oui. Très belle voix.
Alors, on va le retrouver tout de suite dans l'air d'entrée de Mario, Le Soleil et moi.
Voilà.
Justement, extrait de votre opérette commune.
Pêcheurs d'étoiles.
Les Pêcheurs d'étoiles.
Au petit matin, je pars en chantant. Sur mon bateau blanc, au petit matin, je pars en sifflant. Le long des rochers, je m'en vais chercher un coin pour pêcher. Tant mieux si ça mord, sinon je m'endors ou je laisse part. Au bar des amis, un doigt de Chianti, l'on blague et l'on rit. Regard prometteur d'une fille fleur et je pêche un cœur. Comment résister devant la beauté de ce ciel d'été? Nous aimons les amours, le soleil et moi. Nous aimons les amours, le soleil et moi. Nous aimons voir tout en bleu, le soleil et moi. Car nous avons tout en le sang, bien printemps. Soleil mio, quand tu brilles, que de baisers l'on gaspille. Et les oiseaux s'égosillent dans les vignes, les taillis du village nous appellent la joyeuse tarentelle que lancent les jouvencelles du pays.
tu poses là où de l'or sur chaque chose, et je cueille ainsi qu'une rose un jeune amour à son éveil. Douce Italie, c'est ton décor de féerie. Si j'aime la pluie de la vie, c'est grâce à toi, mon vieux soleil. La 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 la.
Alain Van Zoo dans Pêcheur d'étoiles en 1972. Alors, il paraît que votre fille, Nathalie Stutzmann, la grande interprète de Jean-Sébastien Bach, connaît ça absolument par cœur. Hein.
Elle chantait à tue-tête dans les coulisses. Tous les airs, elle connaissait, elle avait assisté à toutes les répétitions. Et elle chantait tous les airs des fantaisistes, les airs du ténor, les airs de la soprane, tout.
Voilà, en tout cas, un beau souvenir pour vous, hein, puisque vous avez eu envie d'en reparler à l'occasion
absolument.
De cette émission.
Oui, de faire connaître et de rappeler aussi le souvenir de cette voix merveilleuse d'Alain Van Zoo que nous venons de réentendre. Voilà. Et avec quel plaisir.
C'est un peu le fait d'avoir cette fille unique, Nathalie, aussi, qui vous a, d'une certaine façon, outre l'évolution de l'Opéra de Paris, conduit vers l'enseignement Christian Stutzmann.
Oui, ça m'a motivée. Je dis toujours que grâce à cette malheureuse affaire de Liebermann de l'Opéra de Paris, et naturellement, le chanteur français mis complètement sur la touche, eh bien, sans cette tragédie, parce qu'au départ, c'était une tragédie tout de même. Hein. Maintenant, on peut en rire, mais tout de même. Eh bien, je n'aurais jamais pu avoir la possibilité, avec l'intensité de ce métier, des déplacements et du travail que cela donne, je n'aurais jamais pu avoir la disponibilité pour m'occuper d'elle.
Ah oui.
Voilà. Alors donc, je bénis le ciel quand même, parce que je ne sais pas, je serais pas modeste en disant ça, mais je suis simplement sincère. Je crois que très peu de gens auraient compris cette voix un peu étrange au départ.
Parce qu'elle est contralto.
Voilà, elle est contralto, il n'y en a pratiquement
très tôt
pas.
Qu'elle était contralto.
Oui, parce que dès que je l'ai fait travailler, je me suis dit, elle n'est pas mezzo.
Ah oui.
Elle n'est pas mezzo. Et j'ai repensé à Kathleen Ferrier.
Oui.
Et j'ai réécouté les disques de Kathleen Ferrier, je me suis dit, voilà, c'est cette catégorie, c'est cette voix, et je dois la diriger vers justement ce répertoire. Et quand je la faisais entendre à des gens du métier, ils me disaient « Oh, ça réussira pas, elle a une voix étrange, c'est bizarre. » Enfin, et Michel Sénéchal, qui l'a entendu, m'a dit « Mais tu me fais le plus grand cadeau qu'on m'ait fait à l'école de l'opéra. C'est une voix tellement rare et tellement unique, je crois qu'on en fera quelque chose. » Eh bien, vous voyez, la suite nous a donné raison.
Voilà, alors aujourd'hui, elle est plus encore peut-être chef d'orchestre que chanteuse, mais elle a tout chanté, elle a beaucoup enregistré, notamment dans le répertoire de Lieder,
avec
cette merveilleuse intégrale Schumann.
Absolument, bien sûr, elle a eu le prix de la critique sur l'intégrale des Schumann en Allemagne pour une Française, je crois que c'est la première fois que ça se produit.
Voilà.
Non, puis elle a chanté la mélodie française énormément.
Bien sûr, bien également. Sûr. Et d'ailleurs, j'avais eu la joie de l'accueillir ici. Elle nous avait dit justement cet éclectisme de ses goûts qu'elle a hérité de sa famille. On la retrouve tout de suite, Nathalie Stutzmann, donc dans un Schumann. Vous avez choisi finalement
bien
Schumann,
sûr.
Parce
bien
que
sûr.
C'est une si belle musique.
C'est tout à fait beau pour sa voix.
Voilà le premier des Gedichte opus 35, ou encore Kernerlieder, donc chanté avec au piano Inger Södergren.
Weil klein sie durch ihr Fenster schwammte Schild, bäumt euch Wälder, brause Wellen, mich umfängt des Himmels Enge, mich umfängt des Himmels Enge.
Schumann par Stutzmann, mais là c'est Nathalie, et vous pouvez être fière quand même, Christiane Stutzmann.
Oui, c'est magnifique.
Quelle voix merveilleuse.
Oui, absolument. Et quelle musicienne.
Oui. C'est vrai. Voilà. Donc,
et quel pianiste.
Et quel pianiste également. Suédoise, ici, Inger Cedergren. Et vous avez d'ailleurs fait l'objet, avec votre mari Christian Dupuis et votre fille, d'un film de Charles Imbert, hein, qui s'appelait Trois voix, une famille.
C'est ça.
Voilà.
Alors FR3 est venu tourner à la maison.
Voilà.
Et nous a interviewé, c'était très sympathique, c'était un très joli film, voilà. Très touchant.
Il faut dire aussi, Christian Stutzmann, que donc, dans ces années, ou après, dans la suite des études de Nathalie, vous êtes vraiment consacré beaucoup à l'enseignement. Vous avez surtout travaillé à Nancy, hein. Vous êtes attaché à promouvoir même d'une certaine façon l'enseignement du chant dans votre ville, dans votre chère ville de Nancy.
Absolument, mais parce que tout simplement, le directeur du conservatoire m'a demandé de venir enseigner à Nancy. Alors, dans un premier temps, il n'y avait pas de poste de professeur de chant. Donc, il m'a dit, moi, j'ai besoin d'un professeur d'art lyrique et de chant choral. Alors, pour le chant choral, il y a un concours qui est lancé à Paris avec la direction de la musique. Il n'y avait pas encore de CA de chant choral. Essayez donc, il y a une centaine de concurrents. Eh bien, j'ai été reçue.
Voilà.
Et donc, j'ai eu toutes les classes de chant choral.
Après avoir fait une carrière à l'opéra, etc., vous êtes remise aux études pour passer votre CA.
Je me suis remise sur les bancs de l'école. Voilà. Et puis, j'ai d'abord passé ce diplôme pour enseigner le chant choral. J'avais jusqu'à 450 choristes par semaine, des plus petits aux plus grands. Et puis, c'est passionnant le chant choral, vous savez. Et puis, j'avais parallèlement la classe d'art lyrique, donc les chanteurs des classes supérieure du conservatoire. Et puis enfin, une place s'est libérée et j'ai eu la place de professeur de chant, tout simplement.
Voilà, et vous êtes très active aujourd'hui dans cette ville de Nancy, par exemple, notamment comme membre de, alors je ne connaissais pas jusqu'à une époque récente, de l'Académie Stanislas, qui est un peu l'Académie française, mais de la Lorraine, voilà, c'est ça, on peut dire.
Oui, l'Académie de Stanislas, qui a été créée par le grand Stanislas, roi de Pologne, dernier duc de Lorraine.
Oui.
Et je dois dire que j'ai eu le grand honneur d'être la première femme à être élue présidente de l'Académie de Stanislas, après 260 ans d'existence quand même,
voilà,
n'est-ce pas ?
La première femme.
Voilà, alors je suis très heureuse pour les femmes et pour les musiciennes, pour les chanteuses aussi.
Que vous mettez en valeur, vous soutenez les jeunes talents,
bien sûr,
etc.
Bien sûr, parce que nous avons des donateurs et nous donnons des prix. Et je suis présidente de la commission des prix artistiques. Donc l'Académie de Stanislas, qui donne chaque année à sa remise des prix jusqu'à 55 000 euros de prix chaque année.
Voilà,
tout de même considérable.
Et il faut rappeler d'ailleurs qu'il existe en France, comme ça, un certain nombre d'académies,
bien
des anciennes grandes provinces.
Absolument. Nous sommes reliés à l'Institut de France et nous faisons partie de la Conférence nationale des académies de France.
Voilà.
Les sciences, les lettres et les arts.
En tout cas, écoutez, bravo et merci pour votre engagement, votre énergie, votre jeunesse d'esprit, Christian Stutzmann, pour évoquer avec nous un peu de l'histoire du chant français, au fond.
Merci à vous, merci. Vous faites beaucoup de bien à tout le monde avec cette magnifique émission.
Et on va se quitter. Vous savez, en France, on adore la politique.
Oui,
alors, avec le duo politique de la fille de Madame Angoumpe. C'est aussi l'occasion de saluer justement Bernard Sinclair, qui nous
avec
a quittés il n'y a
plaisir.
Pas tellement longtemps.
Oui.
Voilà. Et qui était un baryton de grand talent.
Ah oui.
Voilà, on vous retrouve ici dans le duo de l'Ange et Ange Pitou, de la fille de Madame Angoumpe. Merci d'avoir été avec nous ce matin,
Christian. Merci à vous, Benoît Dutertre.
Voyons, monsieur, raisonnons politique.
Parlez politique avec vous.
Et pourquoi pas?
Mais entre nous, c'est un sujet peu poétique.
Je veux pourtant savoir pourquoi, lorsque vous êtes devant moi, l'ancien régime se vous tente. Parlez-vous si jeune et si beau, que vous a fait le régime nouveau. Aujourd'hui, je vous représente.
passera si le nouveau régime est là. Il est charmant car il n'a prime que par l'éclat de ses beaux yeux. En le voyant si gracieux, si doux, si bon, si généreux, comment ne pas être amoureux, amoureux du nouveau régime.
À vous rendez mon cœur à l'espérance que tout regret soit effacé.
Serais-je aimé de la nouvelle?
Oui, je vous en suis conscient. Elle vous aime à l'adoration. Et c'est moi qui parle pour elle.
Ah, ne me dites pas cela, si la nouvelle France est là.
Eh bien,
je la trouve sublime, et lorsque je l'admire en vous, je rêve de ça le plus doux, le paradis s'ouvre pour nous. Voyez, je tombe à vos genoux, aux genoux du nouveau.
Et merci à mon invité Christiane Stutzmann de m'avoir permis aussi de rendre hommage pour finir donc à Bernard Sinclair qui nous a quittés en 2015. Là, ils étaient en duo dans la file Madame Angot, l'enregistrement dirigé par Jean Doussard en 1973 parmi les nombreux que vous pourrez retrouver en cherchant sur Internet ou ailleurs. Donc de la chère et si sympathique Christiane Stutzmann qui était avec nous ce matin.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, il est temps de parler maintenant d'orchestre, d'orchestration, de musique légère aussi, enfin de tout ce qui tourne autour de la grande musique avec notre ami Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Et je suis très heureux parce que, même si j'en ai déjà parlé un petit peu, évidemment, dans cette émission, que vous reveniez aujourd'hui sur ce personnage très important, ce grand, grand musicien qui était Jacques Loussier et qui vient de disparaître.
À 84 ans, il fut le pianiste virtuose associé au trio Playback qu'il avait créé en 1959, mais il fut aussi pendant un bon moment arrangeur pour la chanson française, nous allons l'évoquer peu après. Mais pour revenir à Playback, c'est dans les années 50, quand Jacques Loussier était élève au Conservatoire de Paris, que l'idée d'improviser sur des thèmes de Bach avait germé à la cantine du Conservatoire après les cours. Idée géniale qui a fait le tour du monde. Thank you.
Et voilà l'invention en fa majeur qui m'a donné bien de la peine quand j'étudiais le piano, mais bien du plaisir aussi. Donc par Jacques Loussier et son trio, reprise donc en 2009 pour le 50e anniversaire de cette idée géniale, vous le disiez, de playback. Serge Laïc, né à la cantine du conservatoire rue de Madrid.
Absolument. Alors Jacques Loussier fut aussi un excellent compositeur, et le succès de playback aidant, évidemment, on lui demande d'écrire des musiques devenues ancrées dans notre mémoire collective, comme celle des séries télévisées Rocambole, Vidocq et bien sûr Thierry Lafronde. Jacques Loussier se souvenait très bien de ses heureuses années 60.
Alors, ce que j'avais, je sortais de l'armée, l'Algérie, tout ça. Surtout, ce qu'il y avait de formidable, c'est que je faisais chaque feuilleton l'un après l'autre, et j'en ai fait au moins une trentaine, facilement, peut-être même plus. Et il y avait une bonne entente dans l'équipe. Telle France Film, avec le directeur Canello. Et c'est là que j'ai fait toutes mes armes. Et on a eu un succès presque pour chaque feuilleton que nous avions fait. J'en ai bien profité parce que j'ai eu beaucoup de propositions ensuite après de musique, de films. J'en ai fait pas loin de 100. Mais conjointement, je faisais des concerts avec le trio playback, avec les improvisations sur bec. Je faisais des disques de chanteurs, de tous les chanteurs de l'époque, j'en ai eu au moins une cinquantaine. C'était le plaisir de travailler, de faire de la musique, de cohabiter avec les paroles, avec les idées, avec les choses. C'était, moi, j'ai passé une très heureuse vie.
Il a fait tant de choses, Jacques Loussier, que j'avais même oublié que c'était lui aussi le feuilleton de Thierry Lafronde.
Et oui, et
encore
oui,
Petite Madeleine pour moi, entre autres.
Tout à fait. Vous aviez un an ?
En 63, j'en avais déjà trois. Oh là là, mon Dieu.
Alors, pianiste, compositeur, Jacques Loussier a été lié de très près à la chanson française, et dans les années 50, après ses années de conservatoire, il avait accompagné au piano des célébrités comme Catherine Sauvage ou Suzy Delair. Jacques se souvenait d'une belle anecdote associée à Suzy Delair, qui estimait énormément son pianiste par ailleurs.
Ah, Suzy, ça c'est un personnage vraiment extraordinaire. La chose dont je me souviens, c'est qu'elle chantait avec mon tralala, ta-ta-ta-ta-la. Et quand elle passait sur scène, il fallait que je lui lasse son corset. Parce que ça se défaisait les nœuds derrière. Alors je mettais le pied sur les reins et je tirais sur les deux morceaux de corde qui tenaient son corset. Et elle disait, allez, tirez encore, tirez. C'est un personnage extraordinaire.
Et je peux vous confirmer, Serge Laïc, puisque je la connais bien, que oui. Suzy Delair, qui n'a pas toujours le caractère le plus facile du monde, adore Jacques Loussier. C'était l'accompagnateur avec lequel elle a préféré travailler.
C'est ce qu'il me disait, mais je n'avais pas osé le dire. Parce que je pensais que vous alliez le dire, figurez-vous. Alors, et peu après, dans les années 60, Jacques Loussier devient donc l'arrangeur d'une foule d'artistes comme Mouloudji, Alain Barrière à ses débuts, Nino Ferrer, sans oublier Pierre Perret, alors dans les premières années de son immense parcours.
Dans mes bras, elle me parle de son mari. Il est salaud, il est mesquin, il est pourri. Je suis le type qu'il lui faut, ni trop maigre, ni trop gros. Je l'approuve entièrement, je comprends ses sentiments. Sa langue rose me redonne goût à la vie. Entre ses dents, quand elle abaisse le pont-levis, elle s'applique à me tresser une gerbe de baisers. Dès que son cœur se console, vite elle reprend la parole. Dans mes bras, elle me parle de son mari. Il est salaud, il est mesquin, il est pourri. En voiture, il fait semblant d'oublier son clignotant. C'est trop tard quand on le voit, il vous écrase les nougats. C'est ainsi qu'elle égrène tous ses malheurs. son petit visage tout en larmes sur mon cœur. Moi, devant tant de chagrin, j'ai pris mon cœur à deux mains. Comme il est d'occasion, je l'ai offert sans condition. Dans mes bras, elle me parle de son mari, qui se trouvait seul aux funérailles d'un de ses amis. Comme c'était midi tapant, monsieur suivait l'enterrement. Tout à coup, ce poivreau lâcha le mort pour l'apéro. Constamment, il épie tout ce qu'on fait. Il est en train de calculer le crime parfait. C'est en vain, naturellement, qu'on essaie de faire un enfant. Ce voyou, jalousement, téléphone au bon moment. C'est en rose que j'ai changé ses épines, car dans mon cœur, elle est venue faire du camping. En attendant notre logis, elle me raconte ses soucis et tout ce qu'elle pense de sa vieille crapule de mari.
Dans mes bras par le tout jeune Pierre Perret, accompagné par Jacques Loussier et son orchestre, un 45 tours Barclay, que j'ai d'ailleurs le plaisir d'avoir entre les mains, puisqu'il vient tout droit de l'extraordinaire collection de notre ami Serge Elaïc.
Alors, toujours pour la chanson française, les années 60 sont aussi celles du phénomène yéyé, vous le savez bien Benoît, et je vais vous étonner, Benoît, car Jacques Loussier y a participé en signant les arrangements de quelques chansons de Franck Alamo, et notamment ceux de son, son succès fameux, Biche ma biche.
Biche ma biche, je t'en prie de grâce, laisse tes yeux sans rien autour. Pour moi ma biche, quoi que tu l'en fasses, tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour.
Voilà, toujours 1963 et Franck Alamo, Biche ma biche, avec Evelyne Bugy aussi qui était venue dans cette émission, qui a fait les paroles. Voilà.
Tout à fait. Alors, à côté de la brillante carrière de Jacques Loussier avec Playback, on ne peut oublier ses 40 années d'amitié et de succès avec Catherine Sauvage, tour à tour pianiste puis arrangeur pour elle. Ils ont façonné ensemble plusieurs disques voués, entre autres, au répertoire de Léo Ferré. Mais Catherine Sauvage et Jacques Loussier ont aussi enregistré la chanson, c'est son titre, chanson signée par Claude Nougaro pour les paroles et Michel Legrand pour la musique, rien de moins.
Celle qui entre par une oreille trouve l'autre fermée et ressort par la bouche la chanson. Celle qui fait sa place au soleil dans l'ombre de nos cœurs et que rien n'effarouche la chanson, celle qui a la vie brève. À peine a-t-elle fait la 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 qu'elle n'est plus là, la chanson, la chanson, celle qui rêve de déplacer plus l'air que l'air de la Tosca, la chanson, la chanson, la chanson. L'oiseau mouche perché sur le grand mur du son, celle qui m'est revenue l'autre nuit, mais celle qui la chantait, elle ne reviendra plus, la chanson, celle qui est incarnée sous la pluie par une Edith qui piaffe à l'angle de la rue. La chanson, celle qui est encore dans le corps d'un piano, refermé pour toujours. La chanson, la chanson, la chanson, cousue d'or qui se perd des jardins en gueulant dans les cours. La chanson, la chanson, la chanson, la chanson dont on croit connaître la chanson.
Catherine Sauvage en 1973 avec l'orchestre et donc les arrangements de Jacques Loussier dans cette belle chanson de Nougaro et Michel Legrand qui avait été auparavant lui-même d'ailleurs l'arrangeur aussi de Catherine
Sauvage. Sauvage, hein, complètement, dans les années 50.
Voilà, Serge Laïc.
Alors en 1977, après plus de 15 années de tournée avec Playback, eh bien Jacques Loussier se retire en Provence et il ouvre là-bas un studio d'enregistrement à Miraval qui sera fréquenté par des musiciens, écoutez bien Benoît, de la trempe de Pink Floyd. Et quelques années plus tard, en 1985, à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Sébastien Bach, eh bien, Loussier reforme son trio Playback et joue à nouveau un peu partout dans le monde avec ce trio. Et outre Bach, vous le savez bien, Benoît, Jacques Loussier a revisité à sa façon, bien sûr, Vivaldi, Mozart, Debussy, Chopin, que vous aviez passé il y a quelques semaines, et quelques autres. Parmi ses compositions, dont une messe, On retrouve aussi Pulsion, devenue ensuite la musique, ayant accompagné la publicité pour EDF pendant des années. Nous l'écoutons.
EDF, eh oui, voilà. C'était une publicité de Jacques Loussier, mais joli, très joliment faite comme toutes ces musiques.
Et oui, et le rappeur Eminem en a même emprunté le thème rythmique pour l'un de ses tout premiers tubes.
Ah, quand même, et quel prestige le grand Jacques Loussier et qui nous a quittés.
Voilà, merci Benoît et à bientôt.
Merci Serge, on se retrouve effectivement très bientôt à ce micro. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre, préparée par Annie Comier, aujourd'hui à la technique José Bernays avec Antoine Giraud, réalisation Olivier Guérin. Et on se retrouve donc samedi prochain, j'aurai pour invité, oui pour les petits et les grands, Chantal Goya. Voilà, d'ici là, bon week-end à tous sur France Musique où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.